Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Corentin Mansois, mais aussi Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Hézubert. Troisième temps de notre semaine consacrée au pétrole. Lundi, nous évoquions la question des marées noires. Hier, la malédiction du pétrole. Aujourd'hui, un peu de géopolitique. Donald Trump contre le cartel de l'OPEP. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
J'ai apporté mon soutien à certains pays en ce qui concerne le pétrole. Je l'ai fait parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Mais je l'ai surtout fait parce que je ne veux pas laisser le prix du pétrole monter à 100 ou 150 dollars le baril. Je me suis donc employé à le faire baisser. Si on regarde le prix du pétrole, il descend substantiellement ces derniers mois, et c'est grâce à moi. Pourtant, il y a un monopole au nom de l'OPEP. Et je n'aime pas ce monopole. Je ne l'aime pas. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit. Ça ne va pas se passer comme ça. On va donner le pétrole aux pays qui en ont besoin. Car je ne veux pas voir le prix du pétrole augmenter à 100 ou 150 dollars le baril. Ce qui pourrait arriver très facilement dans ces marchés fragiles, extrêmement fragiles. Je les connais très bien. C'est la meilleure décision.
Donald Trump, en novembre dernier, tweet, harangue, pression, sanction. Donald Trump ne manque ni d'armes ni de détermination pour asseoir la nouvelle suprématie énergétique américaine. Si le précédent président américain Barack Obama avait choisi de se conformer aux objectifs environnementaux de l'accord de Paris, l'actuel président a pour sa part prévu de libérer l'énergie du pays et de favoriser au maximum la production de pétrole et de gaz sur le territoire national. Mais en face, si l'Iran et le Venezuela semblent désormais en jeu, ni la Russie, ni l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, n'ont dit leur dernier mot, et le cartel élargi garde un fort pouvoir d'action sur les cours du baril notamment, c'est-à-dire sur les électeurs aussi du président américain, particulièrement sensibles à la hausse des prix. Alors le pétrole a-t-il retrouvé une place centrale dans les stratégies de puissance? L'OPEP peut-elle survivre à la suprématie énergétique américaine? Et d'ailleurs, de quoi est faite cette politique pro-pétrole de Donald Trump? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. Saïd Nachet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur associé à Sciences Po et puis le directeur du Sommet pétrolier international de Paris. À vos côtés, Jean-François Boitin, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI et au CEPI. Il y a quelques jours, l'Agence internationale de l'énergie publiait son dernier rapport annuel. C'est toujours un moment important. Il indiquait, le dit rapport, que les États-Unis produisent aujourd'hui près de 12 millions de barils de pétrole par jour, dont plus de la moitié de pétrole de schiste. On y reviendra évidemment. Et la tendance, visiblement, va rester à la hausse, puisque d'ici 2024, nous dit ce rapport, les capacités de production américaines vont monter à 14 millions de barils par jour. C'est-à-dire qu'aucun pays, en réalité, n'a jamais produit autant de pétrole dans l'histoire. C'est évidemment, on va commencer avec vous Jean-François Boitin, cette suprématie américaine dans le monde du pétrole, elle est totalement inédite. Les États-Unis sont en train de redevenir les rois du pétrole, ce qui bouleverse évidemment totalement la mécanique pétrolière internationale telle qu'elle existait jusqu'ici.
Oui, redevenir en réalité, parce qu'il faut se souvenir que la découverte du pétrole a été largement menée aux États-Unis, en Pennsylvanie. Si vous traversez la Pennsylvanie, ça m'arrive, vous voyez les premiers puits qui ont été bâtis à l'époque. Et je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que il y a vraiment continuité dans la politique américaine. Et d'ailleurs, très récemment, certains dans son parti lui ont fait le reproche, le président Obama, intervenant évidemment au Texas, a souligné que c'était sous son administration que les États-Unis étaient redevenus un acteur majeur dans la production du pétrole et du gaz. Donc il y a là une continuité, même si évidemment l'administration actuelle essaye de tirer la couverture à elle, bien naturellement, et d'insister que c'est grâce à sa politique que la production américaine atteint les chiffres qu'on voit actuellement.
Et en même temps, elle a des arguments, parce qu'effectivement, il y a une vraie politique pro-pétrole qu'on va décrire dans un instant. Ça, il n'achète peut-être sur cette révolution énergétique que je décrivais. Alors, le pays n'est pas complètement encore indépendant, mais visiblement, ça ne serait tardé. D'ailleurs, il y a eu un moment, au mois de novembre, où le pays a été temporairement en situation d'exportateur net. D'ici 2 ans, nous dit-on, les États-Unis pourraient devenir structurellement exportateurs. Saïd Nachet.
Non, les États-Unis avaient jusqu'à très récemment une interdiction. Il y avait une interdiction d'exporter le pétrole américain.
C'est plus le cas aujourd'hui.
C'est plus le cas aujourd'hui. Alors cette levée de cette interdiction d'exporter, il est venu justement grâce au développement de la production américaine qui a amené des quantités importantes sur le plan intérieur. Et qui a poussé le législateur à décider d'ouvrir le marché, parce que sinon on avait une déconnexion totale entre le marché intérieur et le marché international. Donc la volonté de trouver des débouchés pour ce pétrole-là. Mais les États-Unis restent un consommateur majeur. Leur production ne couvre pas totalement la consommation. Je crois qu'ils consomment quelque chose comme 20 millions de barils par jour. Ils en produisent aujourd'hui 12. Sachant qu'en 2008, ils en produisaient 5 et quelques, donc c'est un doublement quand même en une dizaine d'années. Les prévisions de l'AIE, vous les avez, de l'Agence internationale de l'énergie, vous les avez mentionnées. L'industrie américaine parle vers 2026 de 15 millions de barils par jour, mais on restera quand même en deçà de l'autosuffisance totale. Mais la pression sur la notion d'indépendance qui était né dans les années 70, quand les États-Unis avaient atteint une production de 10 millions de barils par jour dans les années 70, après une croissance continue sur toute la première moitié du siècle. Pour la première fois, ils ont enregistré une baisse de leur production et ils n'ont retrouvé ce niveau de 10 millions de barils par jour qu'il y a quelques années.
Jean-François Batin, Saïd Nachet nous rappelait qu'effectivement, pendant un temps, les États-Unis ne pouvaient pas exporter. Maintenant, ils le peuvent et ils se sont engouffré dans la brèche, si je puis dire, et ça va être de plus en plus. Je me réfère encore à un autre chiffre de l'Agence internationale de l'énergie qui dit que d'ici 2024, les deux tiers de l'accroissement des volumes mondiaux y seront assurés par les États-Unis. Est-ce que ça veut dire que demain, les États-Unis vont avoir un poids absolument inédit et déterminant sur le marché du pétrole en devenant le principal pourvoyeur de cette hausse de l'offre? Ils vont dicter, contrôler l'évolution des prix?
Je crois que c'est pas.
Oui, il faut aller peut-être pas trop vite en besogne.
Non, je crois qu'il faut pas aller très vite en besogne pour plusieurs raisons. Je reviens sur les questions de exportateur net ou pas. Il faut bien voir aussi qu'il y a un problème de qualité de pétrole très important. On en reparlera sans doute si on évoque le sujet du Venezuela, qui fait que les usines américaines sont équipées essentiellement pour traiter du pétrole lourd, qui leur manque aujourd'hui. Donc ça c'est un problème. Que les États-Unis,
l'industrie s'adapte, c'est ça que vous voulez nous dire. Les raffineries américaines
et les raffineries, ouais. Et ça représente des investissements considérables que en ce moment elles ne sont pas en train d'envisager. Et je crois que ce qu'il faut voir aussi et qui est relativement important, c'est que incontestablement, les États-Unis vont devenir un acteur majeur. Il faut aussi prendre les chiffres avec un petit peu de prudence. C'est-à-dire que on est aujourd'hui dans une phase d'optimisme qui fait que les chiffres les plus ambitieux circulent. Les politiques se réjouissent évidemment de l'indépendance renouvelée. C'est le Graal qui était poursuivi par les administrations démocrates et républicaines. Si vous regardez les chiffres avec du recul de l'agence américaine Energy Information Administration, vous vous rendez compte qu'ils ont souvent manqué et d'assez loin les marques. Donc il y a aujourd'hui une phase d'optimisme évident. Moi je me souviens, j'étais à Houston il y a quelques années pour le grand sommet annuel CERAWeek qui se tient début mars traditionnellement, qui vient de se tenir d'ailleurs. Et à l'époque, le désespoir était total parce que on avait atteint peak oil, qui était le sommet de la capacité de production mondiale du pétrole. Donc pendant 5 jours, parce que ça dure effectivement 5 jours, vous voyez des gens tirer une tête pas possible à l'idée qu'on avait passé le sommet de production mondiale.
Sauf que ce sommet, il est sans cesse repoussé à mesure que les techniques avancent.
Et 3 ans plus tard, on était dans l'optimisme plus fou, et on l'est aujourd'hui aussi. Il y a un certain nombre de difficultés aujourd'hui dans la production du pétrole de schiste. Donc, il faut prendre tous ces chiffres avec un tout petit peu de recul.
Je vous laisse réagir, vous voulez réagir. Ça, oui, mais je me permets d'interposer une question, parce que effectivement, il y a eu cette révolution du pétrole de schiste, mais qui pose des questions de rentabilité, parce que effectivement, ça demande des investissements absolument colossaux. Quand vous ouvrez un puits assez vite, en réalité, la rentabilité chute, donc il faut aller très vite pour en ouvrir un nouveau. Et la question que je me pose est assez naïve, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie pétrolière sur le gaz de schiste, sur le pétrole de schiste, est rentable ou pas? Et ensuite, je vous laisserai réagir.
Mais en fait, ma réaction, c'était exactement ce que vous avez soulevé, c'est-à-dire pour conforter ce qui a été dit, c'est que sur les chiffres, alors moi j'ai cité les chiffres de l'administration américaine, de l'Energy Information Administration et de l'AIE. Bon, maintenant, quand on regarde les chiffres de cette administration américaine dans le passé, peut-être pas sur le pétrole, mais sur le gaz, à l'époque, ils envisageaient des importations croissantes à des niveaux absolument inédits de gaz naturel. Aujourd'hui, on est dans une configuration complètement différente. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est vrai que la question de la qualité, c'est une question importante. Je pense qu'il faudrait quand même préciser à nos auditeurs qu'on n'a pas un seul type de pétrole. On a plusieurs variétés de pétrole qui se distinguent essentiellement par leur légèreté, leur densité. Donc globalement, un pétrole plus léger va fournir plus de produits légers qui sont mieux valorisés sur les marchés, donc il vaudra plus cher. Et l'autre facteur, c'est la propreté de ce produit. Donc plus il contient du soufre, plus il faut le « nettoyer » entre guillemets en raffinerie, et plus il faut d'investissement, des raffineries plus sophistiquées, et moins il vaudra cher. Et c'est ça qui détermine le prix du pétrole sur le plan mondial en différentiel par rapport à des bruts de référence. Mais lorsqu'on parle du pétrole de schiste, on est dans un modèle de production totalement différent par rapport au brut conventionnel. Brut conventionnel, vous avez de gros investissements au départ qui nécessitent une durée d'exploitation extrêmement longue pour rentabiliser ces investissements. Et quand bien même les prix descendent en dessous des coûts totaux, on continue à produire parce qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter la production. Le modèle du brut de schiste est totalement différent. Il dépend beaucoup des investissements réguliers qu'il faut mettre dans le forage pour continuer à produire.
Alors justement, Jean-François Batin, sur ce point, quelle est la bonne fourchette? Parce qu'il y a effectivement cette exploitation qui est relativement coûteuse. Il faut sans arrêt, je le disais, faire des investissements dans les puits parce que leur rentabilité chute. Donc ça veut dire que pour que ça soit rentable, il faut que le baril se maintienne à un certain niveau. Et en même temps, il ne faut pas que le prix soit trop élevé parce que sinon vous provoquez le mécontentement de vos électeurs. Et c'est ô combien important pour Donald Trump. Alors c'est quoi la bonne fourchette du point de vue des États-Unis?
Bon, la bonne fourchette, je crois que on l'a atteint aujourd'hui en termes de prix consommateur. On doit être à quelque chose de l'ordre de 50 centimes du litre, conversion gallons, etc. Et donc les prix actuels sont
ça veut dire combien le baril?
Satisfaisant. Donc ça correspond aujourd'hui, on est à
68 le Brent,
67 dollars.
68 le Brent.
Oui, 65, c'est en réalité un bon équilibre.
Et la bonne fourchette, c'est quoi? Jusqu'où on peut aller
le consommateur et pour les producteurs.
En dessous de combien il faut pas descendre et au-dessus de combien il faut pas aller?
Allez, entre 50 et 80, je pense qu'on y est à peu près. Sachant, il faut vraiment savoir une chose, c'est que dans la mesure où les taxes sur le pétrole sont relativement faibles aux États-Unis, surtout comparées à nos pays européens, les variations de prix sont extraordinairement rapide et extraordinairement sensible pour le consommateur.
Alors vous me tendez une perche, vous parlez de taxes parce que il y a effectivement ces derniers jours des bruits qui courent aux États-Unis selon lesquels on pourrait remonter la taxe fédérale sur les carburants. C'est une taxe qui a pas bougé depuis 25 ans, depuis 93. Est-ce que Donald Trump est véritablement disposé à augmenter cette taxe et comment le comprendre?
La réponse est sûrement pas avant 2020, la prochaine élection. C'est un projet de relèvement de taxes sur le pétrole qui circule depuis de nombreuses années aux États-Unis, essentiellement pour financer une infrastructure routière qui n'est pas toujours en bon état. Si vous allez à Washington, c'est maintenant la capitale des potholes dans les rues, de manière absolument caricaturale. Et donc un acteur économique très important, hein, la Chambre de commerce américaine, qui est un peu l'équivalent de notre MEDEF, milite, entre autres, pour que un relèvement de la taxe puisse financer le grand projet d'infrastructure sur lequel le candidat Trump, à l'époque, avait bâti une partie de sa campagne électorale. Le problème étant que les États-Unis sont déjà en déficit budgétaire conséquent, 5% ou à peu près, une dette qui grossit tous les jours, et donc financer un grand plan d'infrastructure, c'est délicat si on ne met pas en place les recettes nécessaires. Mmh. Simplement, toucher au prix du pétrole, c'est aller directement contre l'intérêt du public américain dans son ensemble. Mmh. Et c'est donc un sujet très très sensible. On peut détailler ça si vous le souhaitez.
Saïd Nachet, et puis dans un instant, on va se mettre du côté de l'OPEP, mais restons encore un tout petit peu du côté des États-Unis. Je disais en introduction de cette émission qu'effectivement, Donald Trump, même si vous avez raison, Jean-François Boitin, de nous rappeler que ça ne date pas de Donald Trump et qu'au fond, cette volonté de développer le pétrole remonte à avant Donald Trump, mais quand même, il a fait beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, Saïd Nachet, les différents outils qui ont été utilisés par Donald Trump pour faire exploser cette production de pétrole aux États-Unis, à grands traits?
À grands traits, la production aux États-Unis, elle est portée par des entreprises privées. On n'est pas dans les pays de l'OPEP, on n'est pas en Chine, c'est des entreprises publiques. Donc c'est une initiative qui vient de l'industrie et le pétrole de schiste s'est développé aux États-Unis et nulle part ailleurs, de l'ampleur qu'on a vue aux États-Unis, simplement parce qu'aux États-Unis, on avait les conditions qui permettent à cette industrie de se développer. La première chose, c'est de disposer, d'abord, sur le plan géologique, des dépôts nécessaires.
Évidemment.
Bon, ça, c'est mère nature et l'homme n'y peut rien. Ensuite, il y a toute une industrie de forage extrêmement développée. Ce qu'il faut voir, c'est que la moitié quasiment des services mondiaux à l'échelle du monde, de tout ce qui est parapétrolier, les services et les équipements apportés à l'industrie, se trouvent aux États-Unis. Le troisième élément, c'est aussi l'existence d'un secteur financier qui a accepté de supporter cette industrie. Donc, en fait, c'était des opérateurs de petite taille qui ont commencé. L'idée, c'était, au lieu d'attendre que le pétrole, excusez-moi d'être un petit peu technique, mais c'est juste pour expliquer un petit peu comment ça se passe, que le pétrole qui naît dans une roche mère migre dans une roche réservoir avant d'aller le chercher par un forage, eh bien, c'est d'aller directement dans la roche mère et de fracturer cette roche pour récupérer ce pétrole. Et donc, il y a une industrie de forage extrêmement florissante et d'autre part,
ce qui peut provoquer des dégâts environnementaux colossaux, et donc ça veut dire derrière qu'il faut adapter la législation, faire sauter les normes et les réglementations. C'est une des choses qui ont été faites par l'administration américaine. Jean-François Boitin.
Oui, simplement j'aimerais ajouter un élément qui me paraît absolument fondamental, c'est la caractéristique américaine au niveau du droit des sols, qui fait que un propriétaire d'un domaine quelconque a la capacité de vendre ce qui est dans le sous-sol, ça lui appartient, ce qui n'est pas le cas des législations françaises ou européennes de manière générale. Et donc ça, c'est un élément fondamental.
Oui, mais ça ne date pas de Donald Trump, Moi, ce qui m'intéresse, la politique pro-pétrole de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça explose à ce point? La fiscalité, les normes environnementales, toutes ces choses-là, Jean-François Boitin.
La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que on est dans un modèle qui me semble très typique de l'économie américaine en général. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez une innovation qui vient essentiellement d'autorités ministérielles, de centres de recherche gouvernementaux. C'est un peu ce qui s'est passé pour Internet. Et ensuite, vous avez sur le terrain des entreprises qui procèdent à ce fracking. Alors, ce qui s'est passé avec l'arrivée de Donald Trump, c'est qu'il y a un certain nombre de règles environnementales qui ont été démantelées et on a assisté à la mise en place, en réalité, de gens qui étaient des porte-parole on appelle ça aux États-Unis des lobbyistes de l'industrie, à des postes extraordinairement sensibles. On le voit aujourd'hui au département de l'Intérieur, qui gère des terres extraordinairement vastes à travers le pays. Donc il y a l'ouverture de ces terres à la prospection pétrolière et gazière. On le voit aussi avec la nomination à la tête de l'agence qui, en principe, est en charge de protéger l'environnement américain, d'un ancien lobbyiste du charbon américain. Effectivement, si vous mettez le renard à la tête du poulailler, ça aide prodigieusement à l'augmentation de la productivité pétrolière et gazière.
Sans compter les outils fiscaux, mais on n'a pas le temps de développer, on va passer peut-être à l'OPEP, Saïd Nachet. Décembre dernier, l'OPEP et ses alliés, notamment la Russie, et on va y revenir, ont trouvé un accord sur la réduction de la production. Qu'est-ce qu'il prévoit précisément, Saïd Nachet, cet accord, et les effets attendus? Faisons un peu de pédagogie.
Alors cet accord, en fait, il a été reconduit, mais il...
Ça, c'est la contre-attaque, du côté de l'OPEP.
Je ne sais pas s'il faut vraiment mener ça sur le terrain d'attaque contre-attaque, parce que finalement, ce que fait l'OPEP sert les intérêts des producteurs américains, et on y reviendra. Cet accord, juste un court rappel historique, on a vécu jusqu'en 2014, donc sur les années 2011, 2012, 2013, jusqu'à mi-2014, sur des prix qui avoisinaient les $100 le baril. Ce niveau de prix lui-même a été le résultat d'une évolution qui remonte à 2008, quand on a eu des prix qui avaient dépassé les $140, avoisinant même les $150 le baril en juillet 2008. Et par la suite, on a eu la crise financière en 2009 qui les a ramenés à 40. Donc, on a eu beaucoup de volatilité. Donc, il faudra, tu sais, qu'on en parle un petit peu, parce que les niveaux absolus, ils sont très, très variables. C'est une industrie. On peut passer de 100 à $40 en quelques mois.
Et on peut perdre plusieurs dollars sur un simple tweet.
Et on peut perdre beaucoup.
Je fais référence à celui de Donald Trump.
On peut perdre beaucoup de dollars sur un simple tweet. Il y a eu ensuite la stabilisation des prix à ce niveau extrêmement important, d'ailleurs, à relier avec le développement du pétrole de schiste aux États-Unis. Et puis, mi-2014, l'excès d'offres, enfin, le début d'un excès d'offres au décrochage par rapport à la demande, commençait à produire ses effets. Et tous les opérateurs attendaient à ce que l'OPEP, qui a toujours été là pour réguler, c'est d'ailleurs dans ses statuts, le marché pétrolier, a décidé de ne rien faire. Et prenant les opérateurs par surprise, les prix ont dégringolé de 100 pour atteindre des niveaux en dessous de $50 en quelques mois. Donc, en 2016, l'OPEP a décidé de réagir.
Mais c'est l'accord d'Alger.
Mais compte tenu de l'ampleur du sujet et puis la volonté aussi d'impliquer des pays non OPEP, parce qu'en fait, ce que fait l'OPEP, elle agit sur sa propre production. En réduisant sa production, elle fait augmenter le prix, dont bénéficie tout le monde, donc y compris les États-Unis, encore une fois. Donc, elle a essayé cette fois-ci d'impliquer des pays non OPEP, dont un pays majeur qui est la Russie, et ils sont arrivés à un accord où les pays membres de l'OPEP réduisaient d'1,2 million barils par jour, quand les pays non OPEP menés par la Russie apportaient une réduction qui était de l'ordre de 600 000 barils par jour, amenant une réduction à 1,8. Ce qui est sur une consommation globale, une production mondiale de plus de 90 000 millions de barils par jour, on peut s'interroger sur le niveau de cette réduction. Mais c'est un marché qui se fait beaucoup à la marge. Donc ça a un impact.
Jean-François Boitin, sur cet accord, et peut-être en particulier sur la question de la Russie qui effectivement s'aligne, au fond, aligne sa politique à celle de l'OPEP. Historiquement, la Russie gardait... Alors, okay, qui n'est pas membre de l'OPEP, hein, rappelons-le pour nos auditeurs, mais a plutôt une position, disons, de neutralité à sa propre politique pétrolière. Et là, effectivement, elle s'aligne sur la politique de l'OPEP. Comment est-ce que vous analysez ce rapprochement? Comment est-ce que vous le comprenez? Et est-ce qu'il est voué à s'installer dans le temps?
Oh, je crois que la situation est relativement simple. C'est que la Russie, je vais citer... le regretté sénateur McCain, qui n'était certainement pas un ami du président et vice-versa, qui disait que la Russie, c'était essentiellement une espèce de station-essence déguisée en pays. Et la réalité, c'est effectivement que l'économie russe dépend extraordinairement la production de pétrole et de gaz, et donc du prix du pétrole et du gaz. Donc il y a un intérêt objectif, et il y a aussi évidemment un intérêt stratégique, parce que le président russe souhaite vraisemblablement maintenir une présence active dans les pays du Moyen-Orient, quelque part la question du pétrole est essentielle pour la plupart des pays de la région.
Donc là, je veux
la conjonction d'un intérêt stratégique et d'un intérêt économique qui veut que un prix relativement stable et plutôt à la hausse favorise les intérêts de l'économie russe.
Donc cet alignement de la politique russe sur l'OPEP, c'est un nouveau levier pour asseoir l'influence de Moscou dans le Moyen-Orient, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
Je dis qu'il y a deux facteurs, un facteur économique, le prix de du pétrole et du gaz, l'exportation de pétrole et du gaz sont un enjeu fondamental pour la bonne santé de l'économie russe. Je pense que c'est ça la motivation première, mais ensuite, je pense qu'il est important pour le président russe d'entretenir un certain nombre de liens étroits avec les pays du Moyen-Orient. Il a pris un certain nombre de risques en Syrie, et donc il faut que ces risques rapportent.
Saïd Naché, on voit comment là on peut utiliser sa politique énergétique pour à des fins d'affirmation de sa puissance. Saïd Naché.
Écoutez, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et si on devait un petit peu faire un zoom un peu plus large, moi, je mettrais l'évolution des relations entre le trio Arabie Saoudite, États-Unis et Russie, qui, comme par hasard, sont les trois premiers producteurs mondiaux, donc en principe, ils sont concurrents sur un même marché. Je fais remonter cette évolution dans les approches des uns et des autres, des relations bipartites et des relations au niveau global au sein de l'OPEP, au début des années 2000. Quand le partenariat stratégique entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui remonte aux années 40, a eu pour la première fois une petite griffure. Donc en fait, on a eu les événements du 11 septembre qui ont créé cette première fracture. Et ensuite, on a eu des développements, le printemps arabe, on a eu la Syrie, on a eu les développements au Moyen-Orient, l'opposition Arabie Saoudite-Iran, et qui, dans le déploiement d'une diplomatie, amène à prendre tous les éléments qui pèsent en compte. Le pétrole en fait partie, donc il était évident qu'à un moment donné, ça allait se faire.
Vous parliez de cette alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Ça fait des mois que Donald Trump formule des critiques à l'égard de l'OPEP, à tel point qu'on parle de plus en plus d'une loi anti-OPEP, qu'on appelle aux États-Unis NOPEC, No Oil Producing and Exporting Cartels Act, alors qu'on pensait que cette idée était enterrée depuis de nombreuses années. Or, cette loi, si elle était votée, elle irait bien sûr à l'encontre des intérêts de l'Arabie Saoudite. Vous l'avez dit, allié historique des États-Unis. Bah, d'abord, écoutons justement peut-être une belle archive. On est en février 1945, la rencontre évidemment entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud.
L'une des rencontres les plus colorées sur le croiseur présidentiel fut celle avec le roi d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Le souverain, âgé de 65 ans, quitte son pays pour la première fois afin de participer à cette rencontre. De Washington à Suez, c'est un long chemin, mais la compréhension mutuelle des problèmes de chacun rassemble l'Orient et l'Occident pour un monde meilleur.
Voilà, très belle archive de février 1945, toujours émouvant d'entendre ce genre d'archives. Et la question que je voudrais vous poser, Jean-François Boitin, c'est celle de savoir si Donald Trump serait prêt finalement à remettre, jusqu'où est-ce qu'il serait prêt justement à remettre cette alliance en cause, puisque effectivement il y a là de plus en plus du côté de l'administration américaine ce désir de mettre en place une loi anti-OPEP, comme on l'appelle aux États-Unis. Est-ce que elle pourrait aboutir, cette fameuse loi, et donc, jusqu'où est-ce qu'on peut remettre en cause cette alliance historique, Jean-François Boitin ?
Je crois qu'il faut bien voir que dans un système constitutionnel qui est assez différent du nôtre, Le législatif et l'exécutif ont des rôles très différents. La loi dite NOPEC, qui est un peu le monstre du Loch Ness dans le secteur pétrolier des États-Unis, c'est une initiative du côté du législateur. Le législateur propose, la loi a été proposée pour la première fois en l'an 2000 par un sénateur du Vermont qui est toujours en place. La moyenne d'âge du Sénat américain, vous savez, c'est quand même pas très jeune. Le projet de loi qui circule actuellement, qui est a été initié par le même sénateur du Vermont, Patrick Lee, et par une des candidates démocrates à la présidence, une des nombreuses candidates démocrates à la présidence, Amy Klobuchar, du côté démocrate, et par le président de la commission des finances du Sénat, sénateur Grassley, qui est quelqu'un de très important. Donc ce sont des gens éminemment respectables, éminemment importants au Sénat. Même projet de loi circule à la Chambre, mais il faut que ce projet de loi puisse ne pas être bloqué par un veto présidentiel. On vient de voir
ce qui avait été le cas à l'époque de George W. Bush. Absolument. Il y avait eu déjà une version du NOPEC qui avait été votée et George W. Bush avait posé son veto. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que Donald Trump ne serait pas homme justement à ne pas opposer son veto sur ce genre de texte ?
Je ne le pense pas. Ouais. Je pense qu'il opposera son veto à ce genre de texte. Il y a des acteurs importants de l'économie américaine qui milite ouvertement contre ce texte, la Chambre de commerce américaine et l'Association des producteurs pétroliers aux États-Unis, ouais. Qui sont contre ce projet de loi. Et même si le président utilise son arme favorite, le tweet, pour rappeler régulièrement l'OPEC à l'ordre, la nature des liens qu'il a souhaité maintenir avec l'Arabie Saoudite après l'affaire du meurtre de Khashoggi montre assez que la relation avec l'Arabie Saoudite, c'est dans le meilleur des cas, je t'aime, moi non plus, et plus vraisemblablement, je t'aime tout court.
Saïd Nachet, vous êtes d'accord avec cette idée ? Avec cette idée, on brandit le chiffon rouge, mais on n'ira jamais jusqu'à voter cette fameuse loi anti-OPEP aux États-Unis ?
Écoutez, bon, on critique beaucoup Donald Trump. Des fois, j'essaie avant de critiquer des propositions ou des politiques mises en œuvre, j'essaie de me mettre à la place de celui qui les propose. Et vous avez posé une question tout à l'heure, quel est le prix pour le président américain ? Et certains ont essayé de regarder un petit peu à partir de quel moment il commence à tweeter. Il semble que c'est autour de 62-63 dollars. Donc aujourd'hui, on est légèrement au-dessus, parce que finalement, la quadrature du cercle pour lui, c'est de, à la fois, permettre le développement du pétrole de schiste aux États-Unis, qui est un élément d'indépendance pour les États-Unis, qui l'a été depuis les années 70. Tous les présidents successifs, Ford, Carter, ont tous mis la dimension indépendance énergétique dans leur programme. Donc il tient à ce que cette production continue, c'est ce qui permet d'ailleurs de déployer une autre politique étrangère depuis que les États-Unis ont cette capacité de production. On sent qu'ils sont quand même plus à l'aise sur un certain nombre de sujets. Mais en même temps, faire attention à ceux qui l'ont porté au pouvoir, donc au niveau consommateur final. Donc il faut trouver un prix qui satisfasse à la fois le développement du pétrole de schiste américain sans mécontenter la base électorale du président.
Jean-François Patin.
Oui, je pense que ce dernier élément, c'est-à-dire ne pas mécontenter le consommateur, est un élément essentiel. Et je voudrais citer un chiffre qui dépasse largement le secteur du pétrole, mais qui est quand même très révélateur, c'est que les études montrent que 40% à peu près du public américain est incapable de faire face à une dépense d'urgence qui dépasse 1000 dollars. Donc les gens vivent vraiment paye après paye. Et pour l'énorme partie du pays qui ne peut pas vivre sans voiture, et les voitures, c'est plutôt des pick-up dont la consommation est assez considérable, une hausse du prix du pétrole, c'est un problème absolument essentiel.
Oui, mais c'est
et donc le contrôle du prix, c'est un élément, à tel point d'ailleurs que la semaine dernière un institut économique qui émet un certain nombre de prévisions pour les élections estime que aujourd'hui à conditions économiques inchangées, que les chances de réélection du président sont considérables. Et dans les critères qui interviennent, il y a non seulement le taux de croissance de l'économie, mais il y a le prix du pétrole, parce que c'est un élément, encore une fois, essentiel pour le consommateur américain.
C'est évidemment un élément essentiel pour le consommateur américain, mais c'est aussi un élément essentiel pour les pays membres de l'OPEP. Quand le pétrole tombe, ça entame considérablement votre budget. On a vu du côté de l'Arabie Saoudite ce que ça avait pu produire. Donc c'est aussi très important, justement, de maintenir les prix. Si on reposait la question, mais dans l'autre sens, Saïd Najat tout à l'heure, je demandais quelle était la bonne fourchette. Pardon, pour les États-Unis. Là, on a vu l'OPEP qui réduit les quotas de production pour faire monter les prix. Jusqu'où est-ce qu'on veut faire monter les prix? C'est quoi le bon prix qu'on cherche à atteindre pour l'OPEP? On est là à 67 ou 68 dollars le baril de Brent. Est-ce qu'on est, ça y est, au niveau qu'on cherche à atteindre ou pas encore?
Alors, ce prix qui permet en fait pour ces pays de faire face à leurs dépenses publiques, de leur donner un budget pour faire tourner leur pays, qui dépendent pour la plupart, une très très large proportion, des revenus tirés du pétrole, ce prix-là est très variable en fonction du pays. Il est à 110 dollars pour l'Iran, il est à 105 pour la Libye, il peut être en deçà pour des pays qui sont plus dans l'économie est plus diversifiée. Paradoxalement, l'Iran est moins dépendant du prix du pétrole parce qu'il a une économie qui est plus diversifiée suite aux sanctions qui l'ont frappé pendant de longues années. Donc on peut avoir un prix moyen, mais la situation est variable pour chacun des pays. Les pays producteurs ont cessé de faire référence à un prix au cours des dernières années. Pendant très longtemps, il y avait d'abord un prix officiel dans les années 70, qui était le prix de l'OPEP, le prix auquel l'OPEP était disposé à vendre son pétrole brut. Ensuite, avec la dérégulation des marchés et l'arrivée des marchés libres, on a cessé pendant assez longtemps à faire référence à un prix officiel, puis ça a été repris au cours de la fin des années 90 et début des années 2000 à faire référence à un prix cible, parce que les opérateurs ont demandé ont conseillé aux pays OPEP de fournir un prix cible de manière à ce que les marchés puissent s'ancrer sur ce prix-là.
Je comprends parfaitement, mais la question est toujours valable, Saïd Nachet. Ouais. Est-ce qu'on est là à arriver à un niveau qui est satisfaisant pour l'OPEP? J'ai posé la question autrement. Il y aura bientôt un autre sommet, une autre réunion de l'OPEP. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va choisir de continuer à réduire ces niveaux de production ou est-ce qu'on va relâcher les vannes pour permettre au prix de redescendre? La question est très simple.
Non, la pression pour maintenir les prix au-dessus d'un certain niveau
va se maintenir.
L'Arabie Saoudite a annoncé il y a pas longtemps que un prix de 80 dollars est un prix beaucoup plus proche de ses ambitions que le prix d'aujourd'hui.
Donc, si je comprends bien, 80 dollars, on est en dessous. Donc aujourd'hui, finalement, dans le match, si je puis dire, entre Donald Trump et l'OPEP, pour l'instant, c'est Donald Trump qui l'emporte. C'est très réducteur, mais quand même. Ouais, on parle de prix, c'est très clair.
Non. Il l'emporte sur quel plan?
Sur les 80 dollars que se sont fixés l'Arabie Saoudite. On est à 67, 68. On est à beaucoup moins.
Les prix sont... En fait, la longue remontée des prix, elle se dessine déjà depuis quelques mois. Elle peut continuer encore à augmenter. On a déjà un impact, d'ailleurs, au niveau de la production, il me semble, au niveau du pétrole de schiste aux États-Unis. C'est parce que, comme je disais tout à l'heure, le financement de la production du pétrole de schiste dépend énormément de l'implication du secteur bancaire. Or, le secteur bancaire a beaucoup souffert en 2014. Il n'est pas prêt de revenir... prendre les mêmes risques.
Jean-François Boitin, encore un dernier mot et puis ensuite on va parler du Venezuela. Si je résume un peu la situation et je fais exprès d'être un peu dans la provocation et dans la réduction, mais effectivement, tout à l'heure vous nous rappeliez, Saïd Nachet, qu'il fut un temps où l'OPEP inondait au contraire le marché pour déstabiliser la production de pétrole de schiste aux États-Unis. C'était le fameux accord d'Alger à l'automne 2016, mais en réalité cette tentative de déstabilisation, elle n'avait pas fonctionné et elle avait coûté extrêmement cher par ailleurs aux pays de l'OPEP et notamment à l'Arabie Saoudite qui avait vu d'ailleurs son budget absolument s'effondrer. Là, on voit que dans ce cas-là, quand on essaye de réduire un peu le niveau de production, finalement, à l'arrivée, c'est Donald Trump qui gagne. Il gagne à tous les coups, Jean-François Boitin, en fait. Les États-Unis.
Le président, par définition, gagne toujours.
Ou alors l'OPEP perd à chaque fois.
C'est sa devise. Ses opposants sont tous des losers, des perdants, et lui gagne toujours. En l'occurrence, au niveau actuel, le consommateur américain gagne, et l'électeur potentiel est content.
Et l'OPEP perd.
Les producteurs de pétrole américain, tous ces indépendants dont vous parliez, arrivent pour les meilleurs à l'équilibre, pour les meilleurs seulement. Donc les autres ne veulent certainement pas que le prix descende plus bas. Et ce qu'il faut voir aussi, qui à mon avis sera complètement déterminant, c'est qu'aujourd'hui, le pétrole de schiste aux États-Unis, il est de plus en plus produit par les grands acteurs, les majors, c'est-à-dire les Chevron, ExxonMobil, Occidental, et aussi British Petroleum et Shell, qui deviennent des acteurs très importants dans la production de pétrole de schiste.
On va parler du Venezuela. On va retrouver Isabelle Rousseau, qui est professeure au Colegio de Mexico. Le 29 janvier dernier, les États-Unis ont mis en place des sanctions visant le pétrole vénézuélien à travers la filiale de la compagnie pétrolière publique aux États-Unis, qui s'appelle Citgo. Faut rappeler que Washington est le premier client de Caracas, avec à peu près 39% des ventes vénézuéliennes effectuées aux États-Unis. L'objectif, évidemment, Isabelle Rousseau, de l'administration américaine, c'était de fragiliser encore davantage le régime de Nicolas Maduro pour le faire tomber. Est-ce qu'on a déjà une idée des effets de ces sanctions? Et est-ce qu'on peut effectivement penser que les sanctions feront plier Maduro alors qu'on a déjà une économie qui est ravagée, Isabelle Rousseau?
On ne sait pas exactement ce qui se passe, c'est-à-dire quel est l'état des finances de Maduro. Évidemment, le but, c'était d'étrangler financièrement le Venezuela et le gouvernement de Maduro pour l'obliger à abdiquer. Ceci dit, Maduro tient toujours. Alors, il faut aussi rappeler qu'il a quand même l'aide des Russes, mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, le vrai partenaire, c'est quand même la Chine au niveau des envois de pétrole. Le Venezuela a contracté des dettes très importantes envers la Chine, plus de 65 milliards de dollars depuis 2007, qu'il doit rembourser en pétrole. Donc le but, c'était, et l'accord entre la Chine et le Venezuela, c'était que le Venezuela envoie 1 million de barils par jour. Alors qu'il n'envoyait jusqu'au 29 janvier que entre 600 et 700 000 barils par jour aux États-Unis. Ceci dit, le Venezuela n'a jamais tenu ses promesses envers la Chine parce que c'est un remboursement de dette alors qu'il recevait directement du cash vis-à-vis des États-Unis.
Donc oui, ça, c'est la raison pour laquelle je disais, Isabelle Rousseau, parce que ça c'est une différence fondamentale, que c'est un partenaire important parce que cet argent du pétrole vénézuélien s'était directement, j'allais dire, transformé en dollars sonnants et trébuchants. Donc évidemment, c'était très important pour le régime. Le calcul des États-Unis, c'était de dire que s'il n'y a plus précisément cet argent frais du pétrole, eh bien le régime allait être totalement acculé, et notamment serait dans l'impossibilité de payer ses fonctionnaires, et au premier rang desquels les militaires, bien sûr, qui sont les arbitres de la crise. Sauf qu'on voit bien que ce calcul-là, il a l'air de ne pas fonctionner pour le moment. Est-ce que c'est une erreur d'analyse de la part de l'administration américaine?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on ne sait pas véritablement quelle est la situation financière réelle de Maduro. On sait qu'il y a quand même une aide russe très importante, qu'il y a un jour ou deux avions russes sont arrivés, il y a des envois massifs de blé, donc pour permettre au régime de tenir. Il y a eu de l'or qui a été sorti en lingots il y a à peu près 3 semaines de cela de la Banque centrale du Venezuela, apparemment pour le vendre. On sait également que le Venezuela continue à vendre de l'or à la Russie et à la Turquie, ainsi que du coltrane et du bauxite. Donc, est-ce que ça suffit à financer? Je n'en sais rien. Et puis, alors, est-ce que ce sont des fake news ou pas? Mais dans la presse mexicaine, il y a quelques jours, est apparu le fait qu'apparemment, il y a des cargos qui arrivent du Venezuela et qui vendent du pétrole au Mexique. Alors ça, je ne peux pas certifier, mais en fait, c'est paru dans la presse, dans un journal qui s'appelle La Razón, au Mexique, il y a 3 jours. Donc, je pense que le Venezuela, aujourd'hui, cherche à diversifier ses ventes, puisqu'il ne peut plus les envoyer aux États-Unis, ça n'est pas intéressant pour lui, cherche d'autres partenaires.
La question qui se pose aussi, concernant les sanctions, mais peut-être au-delà de la question du régime de Maduro lui-même, c'est, est-ce que finalement, elles ne sont que faites pour déstabiliser Maduro? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres raisons, et notamment des considérations d'ordre énergétique, qui expliqueraient ces sanctions américaines?
Je pense que le but de l'Amérique, c'est revenir à la doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains, et les Russes et les Chinois doivent avoir une part bien moindre, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque Citgo aux États-Unis, 49% de Citgo, disons, appartiennent aux Russes. Donc les Américains se sentent quand même très menacés. Il y a un problème géopolitique et géostratégique dont l'enjeu principal, évidemment, le pétrole, c'est l'objet, mais d'une redistribution des cartes au niveau mondial. Et le Venezuela, en ce moment, évidemment, est le pays où se joue un petit peu toute cette redistribution, d'une certaine façon. Et je crois que, par exemple, ce qui se passe également dans les négociations en sous-main qui se font entre les États-Unis, la Chine et la Russie, c'est peut-être la Crimée, peut-être l'Ukraine du côté de la Russie, et puis la Chine sait asseoir son emprise sur l'Asie.
Isabelle Rousseau, vous rappelez à juste titre l'importance de la Chine dans le paysage vénézuélien et en particulier dans le secteur du pétrole. Vous rappeliez aussi qu'il y a aujourd'hui un accord par lequel le Venezuela rembourse sa dette à l'égard de la Chine en baril, en pétrole directement. Est-ce que Pékin serait disposé à suspendre, en tout cas momentanément, ce principe de paiement de la dette en pétrole et de payer ce pétrole en argent comptant, afin de soulager le régime? Cette question, revenant au fond, à se demander jusqu'où va le soutien chinois à l'égard de Maduro?
Moi, je sens que la Chine est très sceptique parce que je ne suis pas sûre que la Chine soit prête à payer cash cet envoi de barils pour soutenir le régime de Maduro. Moi, je sens que la Chine est très inquiète de la situation actuelle et très inquiète parce que non seulement il y a des prêts, mais il y a aussi des gisements qui est dans le bassin de l'Orénoque, qui ont été bradés, il faut le dire, depuis 2015, surtout vers 2016-2017, à la Chine et aux Russes. Et donc, ils ont acquis des gisements très importants. Et évidemment, la question, c'est que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement vénézuélien, était aux mains de l'opposition, puisque l'opposition a gagné largement l'Assemblée nationale en décembre 2015. Et donc, l'opposition s'est systématiquement opposée à ce bradage. Donc, Maduro a dû trouver des voies détournées pour faire passer ses... presque ces cadeaux, je dirais, tant à la Chine qu'à la Russie. Alors bien sûr, ces deux pays aujourd'hui sont très inquiets parce que ils veulent conserver. Or, il n'est pas du tout sûr que Guaido ou s'il y a un renversement du régime ou la personne ou le nouveau président de la République accepte, reconnaisse tant les prêts que ces gisements. Hein.
Quand vous dites pas du tout sûr, il y a eu des signaux inverses. Je veux dire, dans l'hypothèse d'une chute du régime de Maduro et de l'arrivée de Juan Guaido et ensuite d'un gouvernement, disons, de rupture par rapport à la révolution bolivarienne, très clairement, ces gisements accordés aux Russes et aux Chinois à très très bon prix, vous le dites, seraient remis en cause.
Oui, très probablement. Très probablement, je vois très mal Guaido ou qui que ce soit de l'opposition à reconnaître ces gisements. Ça serait, à mon avis, très difficile. Alors, ils peuvent négocier, bien entendu. Et je pense que c'est un petit peu, sans doute, un des points forts de la négociation avec les Chinois, principalement, et sans doute aussi avec les Russes. Mais je vois, par contre, les Russes beaucoup plus engagés fermement dans un soutien du régime de Maduro avec Cuba. Et ça, il faut pas oublier du tout Cuba. Cuba qui continue à recevoir 40 000 barils par jour du Venezuela malgré la mauvaise situation du pays et à des prix défiant toute concurrence qui sont véritablement un don et par contre la Chine beaucoup plus hésitante.
Justement, finissons peut-être sur la Russie, Isabelle Rousseau. Il se trouve que la compagnie pétrolière russe Rosneft a beaucoup renforcé sa position dans le pétrole vénézuélien puisqu'il y a une participation de 49,9% dans la filiale américaine de la compagnie nationale vénézuélienne dont je parlais qui est Citgo. La question qui se pose, c'est jusqu'où les sanctions américaines fragilisent justement cette coopération entre la Russie et le Venezuela dans le domaine du pétrole. Et est-ce qu'on pourra imaginer que cette crise, un petit peu contre toute attente, soit une opportunité pour Moscou pour renforcer sa position, alors à terme, pas tout de suite, sur le pétrole vénézuélien?
Tout dépend qui va gagner finalement. Ouais. Je veux dire, il est évident que si Maduro se maintient au régime un certain nombre d'années, bien entendu, la position des Russes sera extrêmement forte. Mais c'est un véritable pari, le pari des Russes. Oui, il y aura un renforcement de la Russie, c'est certain, mais tout va dépendre effectivement du soutien actuel et de l'ampleur du soutien actuel des Russes vis-à-vis du Venezuela. Mmh. Alors ça passe aussi peut-être par une négociation avec l'OPEP et l'OPEP+.
Et les sanctions américaines, ça fragilise beaucoup là, les positions russes dans le secteur pétrolier.
Ça la fragilise puisque à un moment donné, en 2017, je ne me souviens pas exactement, je pense que c'était août-septembre, les États-Unis ont eu extrêmement peur parce que le Venezuela ne pouvait plus rembourser les intérêts de sa dette vis-à-vis des Russes. Et donc, les Russes ont menacé de s'emparer de Citgo, qui est une compagnie de raffinage, hein, et qui raffine à peu près 6% du pétrole qui se trouve aux États-Unis. Donc, c'est quand même un ensemble de raffineries qui sont importantes. Alors, à ce moment-là, les États-Unis sont intervenus et ils ont menacé les Russes. Et il n'était pas question d'avoir les Russes chez eux. Enfin, ils ont d'une certaine façon, mais enfin, les avoir présents complètement. Quoi.
Merci beaucoup, Isabelle Rousseau. Je rappelle que vous êtes professeur au Colegio de Mexico. Réaction, Jean-François Boitin et Saïd Nachet, sur cette stratégie de Trump au Venezuela, où on le voit là aussi, hein, la Russie parvient quand même à tirer son épingle du jeu. Jean-François Boitin.
Bien sûr. Je crois que ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est typiquement dans une situation qui n'est pas nécessairement gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la contrainte imposée au Venezuela, elle a un prix pour l'économie américaine, elle a un prix pour les raffineries américaines. Et aujourd'hui, ces raffineries, elles manquent terriblement de ce brut lourd qu'elles ont besoin de traiter, qu'elles ne peuvent pas se procurer, en particulier pas au Canada, parce que tous les oléoducs sont pleins, etc. Et donc, il y a un problème réel qui explique d'ailleurs que pendant un certain temps, les douanes américaines ont laissé passer des cargos pour alimenter ces raffineries sur le Golfe.
Saïd Nachet, en guise de conclusion.
Écoutez,
Venezuela qui est membre de l'OPEP, même membre fondateur en réalité, c'est un Vénézuélien qui est à l'initiative de l'OPEP.
Non seulement membre fondateur, mais c'est lui qui tient la présidence de l'OPEP en ce moment. C'est-à-dire c'est le ministre vénézuélien qui pilote les réunions des ministres de l'OPEP. Non, mais je pense que le risque, c'est encore une fois, on est dans une industrie de long terme, on est dans une phase un petit peu d'abondance de pétrole, d'offre de pétrole. Et du coup, les soubresauts et les difficultés que peuvent rencontrer certains pays producteurs, comme le Venezuela, mais il faut pas oublier qu'on a aussi, la Libye, on a aussi l'Iran qui est sous sanction. Donc ces difficultés ne paraissent pas comme étant impactants. À mesure que l'on en avance dans le temps, il est important, et notamment pour les peuples de ces pays-là, qu'on puisse revenir à des situations normales, parce qu'ils dépendent énormément des revenus du pétrole, et donc je pense aussi au peuple vénézuélien.
On parlait justement hier de cette dépendance au pétrole, c'était notre sujet d'hier. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous nos invités. Isabelle Rousseau qui est avec nous par téléphone, professeur au Colegio de Mexico. Saïd Nachet, merci également à vous, professeur associé à Sciences Po et directeur du Sommet Pétrolier International de Paris. Jean-François Boitin, quant à vous, chercheur associé à l'IFRI et au CEPI, un grand merci de nous avoir éclairé ce matin.
Merci
messieurs. On reprendra notre série consacrée au pétrole demain. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on poursuit sur l'Italie comme depuis le début de la semaine. Le mouvement 5 étoiles apparaît comme le prototype des mouvements qu'on nomme populiste, Brice.
Oui, comme on sait, l'Italie, c'est le laboratoire politique du monde. C'est dans ce pays talentueux et inventif qu'ont été mises au point toutes sortes de formules destinées à se répandre. Et Giuliano da Empoli, l'auteur de ce livre extraordinaire, Les ingénieurs du chaos, n'a pas de mal à démonter en quoi le mouvement créé autour du bouffon Beppe Grillo anticipe sur Donald Trump et quelques autres phénomènes politiques récents. Beppe Grillo remplissait les salles de spectacle de toute l'Italie avec ses one-man shows provocateurs. C'était un agitateur maniant l'insulte et la dérision, se moquant du politiquement correct, un moderne guignol qui donne le bâton aux gendarmes et aux puissants. Un soir, débarque dans sa loge un geek aussi concentré et méthodique que l'autre est exubérant et relâché. Gian Roberto Casaleggio. Avez-vous une idée de la manière dont Internet peut changer le monde ? Demande l'informaticien au comique. Ces deux-là vont provoquer une espèce de révolution politique. Elle a éclaté en Italie l'an dernier avec la victoire électorale du mouvement 5 étoiles, 33% des suffrages exprimés. La force et la résilience du mouvement 5 étoiles proviendront de cette combinaison inédite, écrit Empoli. Le populisme traditionnel épouse l'algorithme et accouche d'une machine politique redoutable. C'est à cette époque, en 2007, que deux journalistes, Sergio Rizzo et Antonio Stella, font un best-seller, 1 million d'exemplaires vendus, avec leur livre « La Casta », sous-titré « Comment les politiciens italiens sont devenus intouchables ». Premier élément de la recette de Casaleggio, un blog, incarné par Beppe Grillo, dont la montée en puissance est calculée avec la précision du marketing digital. Casaleggio le disait, la politique ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est l'opinion publique. En quelques semaines, le blog de Beppe Grillo devient le plus fréquenté d'Italie chaque matin. Sont sélectionnés les 10 commentaires d'abonnés qui paraissent les plus intéressants et dans l'après-midi, l'un d'entre eux, réécrit par Casaleggio pour le rendre le plus percutant possible, devient le poste du jour. Très vite, le geek réalise que les messages les plus populaires sont ceux qui mettent en cause les élites, politiques en particulier. Il crée alors une application qui permet aux fans de Beppe Grillo de se rencontrer et de lancer des actions. À ce stade, la base conserve donc une liberté d'initiative totale. En 2007, les deux compères convoquent un rassemblement anti-politicien, le Vaffanculo Day, ou la journée va te faire foutre. Aucun média traditionnel italien ne reprend l'invitation, mais sur Internet, l'appel devient viral. Et le 8 septembre, ce sont des centaines de milliers d'Italiens qui participent dans un très grand nombre de villes du pays à la journée « Va te faire foutre ».
Et puis en 2009, Brice, l'entreprise privée de Casaleggio donne naissance à un mouvement quasi politique, 5 étoiles.
Oui, mais le fonctionnement de l'ensemble est d'une opacité totale. Et tout aussi total, le contrôle conservé par Gian Roberto et aujourd'hui par son fils et héritier Davide Casaleggio sur ce système de communication. Ce dernier compare les participants de son réseau à des fourmis. Les fourmis, dit-il, suivent une série de règles appliquées à chacune, à travers lesquelles se détermine une structure très organisée mais pas centralisée. Chaque fourmi réagit au contexte, à l'espace dans lequel elle se déplace, ainsi qu'aux autres fourmis. Mais une fourmi n'a pas à savoir comment fonctionne la fourmilière. Sinon, toutes les fourmis souhaiteraient occuper les meilleurs postes, les moins fatigants. L'entreprise Casaleggio contrôle la fourmilière en surplomb. Et en application de ce beau principe, les 163 premiers parlementaires élus lors des élections de 2013 sur les listes du mouvement 5 étoiles signent un engagement de communiquer à la société de Casaleggio les mots de passe de leur propre boîte mail et de leur profil sur Facebook. Le Parlement ne sert à rien, professent les grands manipulateurs. Dans la démocratie authentique, la souveraineté populaire ne se délègue pas. D'où le mélange détonnant entre des procédures de démocratie directe via les sites collaboratifs dévolus au mouvement et le contrôle total exercé par ses dirigeants. Mais au fait, Mussolini lui-même ne prétendait-il pas rendre le pouvoir au peuple italien en le débarrassant de ses élus, comme le fait la loi du 24 décembre 1925 qui destitue le Parlement italien. Le système 5 étoiles a inspiré d'autres ingénieurs du chaos. Steve Bannon, l'homme qui a mis la main sur le réseau Breitbart pour faire élire Donald Trump, Arthur Finkelstein, l'as du micro-targeting, le Kaiser Soze des droites nationalistes, qui s'est mis au service de Benjamin Netanyahu. Sa stratégie politique est fondée sur une observation de base. En politique, c'est ce que tu perçois comme vrai qu'il est, et non pas ce qui est vrai. Pour Giuliano da Empoli, toujours lui, nous sommes passés d'une ère politique newtonienne à une ère quantique. Les ingénieurs du chaos ont compris l'énorme potentiel contenu dans la colère des peuples, dans leur volonté de reprendre le contrôle. Comme disait Woody Allen, les méchants ont sans doute compris quelque chose que les gentils ignorent encore.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donc les ingénieurs du chaos, qui vous a beaucoup intéressé, donc de Giuliano d'Empoli chez Lattès. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.